Alors, je vous ai amené un petit texte. Si tu peux faire passer à Barbara. Donc, c'est un texte qui s'appelle la prière à la lignée de Dorje Chang Tungma. On dit aussi la prière à la lignée de Vajradhara. Dorje Chang, c'est en tibétain, et puis en sanskrit, on dit Vajradhara. Et voilà, j'avais envie d'aborder ce texte pour la suite des enseignements. C'est une dans ce texte-là, on rentre dans le bouddhisme tibétain. C'est vraiment un texte du Vajrayana. Et jusqu'à maintenant, dans les Choling, j'en ai pas trop parlé du Vajrayana. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que d'abord, faut un prérequis avant d'aborder les enseignements du Vajrayana. Donc, c'est vraiment le Vajrayana, c'est vraiment caractéristique du bouddhisme tibétain. C'est dans le bouddhisme, il y a deux véhicules. Il y a ce qu'on appelle le Hinayana, qu'on traduit par le petit véhicule, et puis le grand véhicule. Alors maintenant, on ne dit plus petit véhicule parce que pour les pratiquants du petit véhicule, ça peut sembler un peu. Voilà, le petit véhicule à côté du grand véhicule. Alors, on préfère maintenant dire le Shravakayana, le véhicule des auditeurs. Voilà, on va parler du Shravakayana, c'est-à-dire le véhicule de la libération individuelle et le grand véhicule. Et dans le grand véhicule, il y a une branche qui s'appelle le Vajrayana. Le Vajrayana, c'est le véhicule de diamant. C'est comme ça. Yana, ça veut dire véhicule, et Vajra, diamant, le véhicule adamantin. Je vous avais sans doute expliqué, en fait, pourquoi il y a ces deux véhicules dans le Dharma, parce qu'il y en a un dont le but, c'est la libération individuelle. Donc, on va l'appeler petit véhicule, parce qu'il est, c'est un véhicule qui restreint notre propre libération. Là, l'objectif, c'est je cherche à me libérer de la souffrance. Le reste, on ne s'en préoccupe pas, ou ça ne nous vient pas à l'esprit qu'on peut aller plus loin que ça. Et le Bouddha, il y a beaucoup d'étudiants qui n'envisageaient pas quelque chose au-delà de ça. Déjà, se libérer de la souffrance, c'est déjà énorme, et on en reste là, pour l'instant. Et donc, on va parler de véhicules restreints à sa libération individuelle. C'est pour ça qu'on va parler de petits véhicules, parce que c'est un véhicule monoplace. Il n'y a qu'une seule place, c'est pour moi. Et puis, on va parler de grands véhicules, parce que il y a d'autres pratiquants qui pouvaient envisager de devenir Bouddha, c'est-à-dire pas seulement se libérer de la souffrance, mais de réaliser ce que le Bouddha avait réalisé, c'est-à-dire non seulement se libérer de la souffrance, mais en plus avoir toutes les qualités d'un Bouddha, y compris celle de pouvoir guider les autres à réaliser leur nature de Bouddha. Et dans le grand véhicule, c'est ça qu'on vise. En fait, nous, dans le grand véhicule, dans la prière de refuge, on dit « je veux réaliser l'éveil pour libérer tous les êtres de la souffrance, pour amener tous les êtres à l'éveil. » C'est ça l'objectif dans le grand véhicule. On veut réaliser l'éveil, pas seulement pour se libérer de la souffrance, mais pour être à même de devenir un Bouddha, pour être à même d'emmener tous les êtres vers la libération. Et c'est pour ça qu'on parle de grand véhicule. C'est-à-dire, on embarque tout le monde avec nous. Parce que dans le Dharma, on dit l'aspiration fait le fruit. Si notre aspiration, c'est se libérer de la souffrance, le fruit, ce sera la libération individuelle. Si l'aspiration, c'est de libérer tous les êtres de la souffrance, le fruit, c'est de devenir Bouddha. Il y a une adéquation entre l'aspiration et le fruit. Donc d'emblée, dans le grand véhicule, on va cultiver cette aspiration, beaucoup plus vaste que la libération individuelle, c'est celle de devenir un Bouddha, parce que c'est cette aspiration qui fait qu'on devient un Bouddha. Sans cette aspiration-là, on ne peut pas. Et dans cette voie-là, dans ce véhicule-là, il y a une branche qui s'appelle le Vajrayana, et que j'ai envie d'aborder, mais que je ne faisais pas avant parce qu'il faut un prérequis. Le prérequis, c'est déjà une certaine compréhension du bouddhisme qui fait qu'on comprend la nécessité du renoncement et la nécessité de la bodhicitta. La bodhicitta au sens la compassion et puis la sagesse. C'est vraiment les deux piliers de ce véhicule-là. Il faut déjà avoir compris ça. Le renoncement, c'est ce qu'on entend par renoncement, ce n'est pas le renoncement au monde, c'est le renoncement à l'illusion qu'on se fait sur les choses, sur les phénomènes. Penser que le monde peut nous apporter la satisfaction. Il peut nous apporter, penser que le monde a le pouvoir de nous combler. Bien sûr, le monde, il peut nous apporter des satisfactions. Les phénomènes, ils peuvent nous apporter des satisfactions. Mais le Bouddha, il dit, tous les phénomènes, au bout du compte, tous les phénomènes sont insatisfaisants. Tous les phénomènes du monde sont insatisfaisants. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, quand il dit les phénomènes sont insatisfaisants, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui a le pouvoir de nous combler totalement. Donc tant qu'on cherche à être comblé par le monde, bah, à un moment donné, ça ne va pas suffire. Même dans le top du samsara, même ceux qui ont tout dans le samsara, qui ont vraiment les conditions les plus privilégiées, même quand toutes ces conditions sont réunies, ça a une limite. Ça n'a pas le pouvoir de nous satisfaire totalement. Ça, on l'a vu, et puis c'est facile à voir. C'est facile de constater tout le monde, on cherche ça dans le monde. On va le chercher à travers le pouvoir, on va le chercher à travers la richesse, on va le chercher à travers les relations, on va le chercher à travers la renommée et tout ça. Et on voit que ce soit nous, que ce soit les autres, à un moment donné, ça a une limite. C'est bien de pouvoir réunir des bonnes conditions, mais ça n'a pas le pouvoir de nous rendre, de nous libérer de la souffrance. Et c'est ça que le Bouddha veut dire. Que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, par nature, ils sont insatisfaisants, parce qu'ils sont transitoires, parce qu'ils sont composés, parce qu'ils sont circonstanciels, etc. Donc, même le plaisir, on l'associe à satisfaction, mais le Bouddha va nous dire, non, le plaisir, il est aussi insatisfaisant. D'ailleurs, il est plaisant, mais il est impermanent. Donc, il n'a pas le pouvoir de durer, il n'a pas le pouvoir de nous apporter une satisfaction totale. Ça, c'est très important à comprendre quand on va... parce que si on comprend ça, on va pouvoir comprendre plus profondément le dharma. C'est la base. La base, c'est que le Bouddha, il ne nous dit pas de renoncer au monde, il nous dit de renoncer aux idées qu'on se fait par rapport au monde. C'est-à-dire que le monde aura le pouvoir de nous rendre totalement heureux. Et donc, il faudrait chercher le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. Tant qu'il y a ça, on ne va pas pleinement comprendre le dharma. Parce qu'il y aura toujours une partie de nous-mêmes qui va essayer, ouais, mais ok, ça je comprends, mais il y a éventuellement ce phénomène-là, peut-être que ça vaut le coup. Peut-être que celui-là, il vaut le coup que je m'y attache, que je cours après, que jusqu'au jour où il va y avoir une désillusion. C'est-à-dire peut-être qu'on va l'obtenir, et puis on va se rendre compte que c'est toujours pas ça. Qu'on peut pas se reposer sur nos lauriers, que ça règle pas tous les problèmes, etc. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que... Après, on peut se leurrer aussi en se disant « Ok, ça j'ai bien compris, je ne vais pas chercher le bonheur dans le monde, mais je vais le chercher à travers des états d'esprit. » Parfois, quand on se lance dans le chemin spirituel, on commence à se dire « Ok, le bonheur, ce n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, donc c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est peut-être en cultivant certains états d'esprit. » Et on envisage que l'éveil, c'est le fait, par exemple, d'avoir l'esprit stable, d'avoir l'esprit joyeux, d'avoir l'esprit non agité, d'être quelqu'un de posé, d'être quelqu'un de mesuré, d'être... Et on va se rendre compte que là aussi, on va se planter au bout d'un moment. Parce que ça peut marcher. Voilà, on pourrait se dire que on va se retirer dans un monastère pour vivre avec des gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui sont tous sympas, qui sont tous bienveillants, et puis on va faire de la méditation, et puis on va manger bio, et puis on va faire ceci, cela. Et à un moment donné, on pourrait arriver à un état de tranquillité. Et ça pourrait marcher, ça pourrait durer un certain temps, jusqu'au jour où il y aura un petit caillou dans la chaussure, et tout ça, ça va exploser. On va voir que même ça, si on mise là-dessus, penser qu'il y a un état d'esprit qu'il faudrait rechercher, qui soit la libération, au bout d'un moment, ça va s'écrouler, et c'est bien que ça s'écroule. Il faut que ça s'écroule à un moment donné pour qu'on voit que, là encore, on est encore dans le samsara, on est encore en train de rechercher à travers un phénomène, peut-être le fait d'être tranquille, peut-être le fait de ne pas avoir l'esprit agité, ou d'être joyeux, on pense que c'est ça la libération. Donc on cherche à cultiver cet état d'esprit-là, on cherche à réunir des conditions pour que ça reste le plus longtemps possible, et puis on va se rendre compte que ça ne marche pas. Alors c'est déguisé en apparence spirituelle, c'est-à-dire c'est pas un attachement mondain, mais c'est quand même mondain. Enfin voilà, ça ne ressemble pas à un attachement, mais c'est mondain. On va le rechercher à travers, penser qu'un état d'esprit, c'est la clé. Et ben, un état d'esprit, c'est aussi un phénomène. Et comme le Bouddha l'a enseigné, tous les phénomènes sont transitoires, ils sont tous insatisfaisants. Et donc, du coup, même s'il y a certains états d'esprit qu'on va cultiver, parce qu'ils vont nous aider sur le chemin, et ben, il faut qu'on comprenne aussi que c'est pas ça l'éveil. Ça, c'est juste un moyen. C'est juste une méthode pour qu'enfin on puisse se dire, OK, il n'y a pas un seul phénomène, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit à l'extérieur de nous-mêmes, qui soit satisfaisant. Et dès qu'on comprend ça, eh ben, y a vraiment le renoncement qui s'élève dans l'esprit. Et le renoncement, c'est pas c'est pas quelque chose où le Bouddha nous aurait dit il faut se priver de ça ou il faut pas faire ça. Le renoncement, c'est une compréhension. Je comprends que si nulle part ailleurs je vois qu'il y a un phénomène qui vaut vraiment le coup, j'arrête de chercher là-dedans. Je me fais plus avoir. J'arrête d'y croire et je vois que même tous les gens autour de moi qui cherchent là-dedans, ils vont se planter. On le sait, il y a quelque chose qui devient acquis, qui devient une certitude et qui va devenir une confiance en fait. Ça va devenir, on va être assuré de notre façon de voir. Et plus on va regarder les choses comme ça, plus ça va venir confirmer cette idée-là et moins on va se faire avoir. Donc on va plus s'embarrasser. On va être en plus de moins en moins enclin à faire le tri sur ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire les choses négatives, les choses positives, on sera moins enclin à être perturbé par ça, parce qu'on sait que tout ça c'est transitoire. Il y a pas, même si un phénomène est positif, il est insatisfaisant. Si un phénomène est négatif, il est impermanent. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, on va moins voir un problème par rapport au fait que les choses qui nous arrivent, ça se passe bien, ça se passe pas bien. C'est pas un problème. Tout ça, je veux dire qu'on soit éveillé ou pas. Ça, c'est comme ça, les choses sont comme ça, donc on ne cherche pas on n'en fait pas toute une montagne. Et puis aussi, dans le travail sur les émotions, ça va être très très important. Avant, on va voir qu'il y a certaines émotions, et on nous enseigne comme ça. On va nous dire, attention les facteurs perturbateurs, attention les émotions négatives, attention quand il y a trop d'avidité, quand il y a trop d'irritation dans l'esprit, faut faire gaffe parce que ça nous emporte. Et poussé par ces émotions-là, on fait n'importe quoi. On dit des trucs qui vont provoquer de la souffrance pour nous, pour les autres. On fait des choses qui vont provoquer de la souffrance pour nous, pour les autres. Parce qu'on est sous l'emprise de ces émotions-là. Et donc, du coup, on n'est pas maître. Donc, on nous dit, faut écarter dans un premier temps. Faut lâcher prise sur ces émotions-là. Soit faut les transformer. Et puis, dans un dernier temps, dans le stade le plus profond, le plus direct de travailler avec les émotions, on comprend qu'il n'y a aucun problème avec les émotions. Ça, c'est les paliers successifs. D'abord, on dit non aux émotions négatives, et puis ensuite, on apprend à les transformer. On voit que ce n'est pas tant l'émotion le problème, c'est le rapport à l'émotion, donc on transforme. Et puis ensuite, on va aller plus loin, on va voir que même les émotions, en fait, il n'y en a pas une qui soit plus susceptible de nous faire atteindre l'éveil qu'une autre. Qu'en fait, l'éveil, il se situe aussi bien dans l'irritation, dans l'avidité, que dans la joie, que dans le fait d'être calme, que d'être dans la gratitude. Et on arrive à percevoir ça quand on reconnaît les émotions pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des phénomènes qui naissent de causes et de conditions, et qui naissent en toute justesse. S'il y a telle ou telle émotion dans notre esprit, c'est qu'il y a des causes et des conditions qui sont là pour qu'elles naissent dans notre esprit, et c'est juste. S'il y a de l'irritation dans notre esprit, c'est juste. S'il y a de la tristesse dans notre esprit, c'est juste. S'il y a de la joie, c'est juste. S'il y a de la gratitude, c'est juste. Toutes les émotions sont justes. Par contre, notre problème, c'est qu'on ne sait pas comment gérer ça. Et au début, on se débat. Ah, pas bien. ça c'est bien, ça c'est une bonne émotion, ça c'est l'éveil, ça, le fait d'avoir de la joie, le fait d'être calme, ça c'est bien, c'est positif, là je peux trouver l'éveil. Et puis quand il y a de l'irritation qui vient à l'esprit, ah non, ça c'est pas bon, ça c'est pas l'éveil, ça il faut. Et en fait, du coup, on est à côté de la plaque. Mais c'est progressif tout ça. Mais c'est juste pour introduire que, pour qu'on ait une perspective, qu'à un certain stade, quand on comprend pleinement qu'il n'y a pas une émotion qui soit susceptible de nous satisfaire plus qu'une autre, parce que tout ça, c'est transitoire, tout ça, c'est simplement des causes et des conditions qui se manifestent dans l'esprit. Et si on n'est pas en train de se débattre par rapport à ça, si on n'est pas en train d'essayer de rechercher une émotion en espérant qu'elle va nous satisfaire, eh ben on peut regarder pleinement les émotions pour ce qu'elles sont. On n'est plus en train de discriminer entre bien, pas bien. Et du coup, on laisse les émotions telles quelles, et du coup, on en est totalement libre. Et en plus, en étant totalement libre, eh ben, l'émotion devient le vecteur d'éveil. On comprend la nature de l'émotion. Et donc, du coup, on comprend qu'on peut trouver l'éveil, totalement trouver l'éveil quand on est énervé, quand on est irrité, quand on est impatient, que quand on est calme, que quand on est joyeux, que quand on est... Voilà, tout est bon pour l'éveil à ce moment-là. Alors, c'est vraiment quelque chose dont on parle, mais en prenant des pincettes. Quand on parle de ça, on parle de... Voilà, il faut bien comprendre que le bouddhisme, c'est une voie progressive, et que s'il n'y a pas un prérequis, si on ne comprend pas trop de quoi on parle, eh ben, il y a des gens qui vont dire « Ah ben, c'est bon alors, puisque c'est ça, je peux laisser libre cours à mes émotions, il n'y a rien à faire. » Voilà, dans ces enseignements-là, qui sont très très directs, au lieu de lâcher prise sur les émotions, au lieu de transformer les émotions, là on nous dit qu'il n'y a rien à faire. Les émotions, elles sont telles qu'elles sont, et c'est très bien, et elles sont là en toute justesse, parce qu'il y a des causes et des conditions, il n'y a rien à faire. Certaines personnes, s'ils ne comprennent pas de quoi qu'on parle, s'il n'y a pas le prérequis, bah, ils vont se dire « Ok, je peux laisser libre cours à mes émotions. C'est bon, chic. En fait, c'est bon, j'ai tout compris, le dharma c'est simple, il n'y a rien à faire, donc je peux me laisser aller à mes tendances naturelles, l'avidité, la colère, etc. » Et bien là, du coup, on n'a pas compris. Il n'y a pas le renoncement derrière. Quand on dit « je peux me laisser aller à les émotions chic », ben, quelque part, c'est qu'on est en train il y a une espèce d'espoir de trouver une complaisance, de se complaire dans telle ou telle émotion. En se disant oh, « c'est bon, je vais pouvoir me lâcher, je vais pouvoir donner libre cours à ma colère, ou je vais pouvoir donner libre cours à mon avidité ben, ». Ça, c'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'on pense encore qu'on va trouver quelque chose derrière le fait de se laisser aller à telle émotion. On va trouver quelque chose qu'il faudrait avoir plutôt qu'autre chose. Je me fais comprendre. Donc, il n'y a pas le renoncement. C'est-à-dire, il n'y a pas la compréhension qu'il n'y a rien, il n'y a pas plus à rechercher une émotion qu'une autre. Tant qu'il y a ça, tant qu'il y a cette distorsion, tant qu'on recherche quelque chose à travers une émotion, c'est que on pense encore, il y a encore l'espoir d'y trouver quelque chose de satisfaisant, alors que ce n'est pas satisfaisant. Ce n'était pas du tout de ça que je voulais parler ce soir. Voilà. Mais tant pis. Quand on a reçu Ringo Rinpoche, là, il y a 2-3 semaines, quand il est venu enseigner à Luce, tout son enseignement, c'était sur les trois façons de gérer les émotions. Et il rappelait que dans le dharma, on ne parle que de ça. Tout le dharma, ça converge vers ça, c'est comment je vis mes émotions, comment je travaille sur mes émotions. Tout est question de ça. Comment je travaille avec cet esprit, ma façon de vivre les émotions, d'y réagir, etc. Et donc il a parlé des trois manières principales. La première, c'est dans un premier temps d'abandonner les émotions négatives. On les abandonne. on y renonce. On renonce à laisser libre cours à ces émotions-là. Voire on met de la distance avec ce qui provoque telle ou telle émotion. Ça fait partie du premier stade de la pratique. On sait que telle émotion est trop forte pour nous et on se laisse complètement prendre par ça. Il faut apprendre à pacifier les émotions, à les abandonner, à lâcher prise, etc. Voilà. Mettre de la distance. Il y a plein d'enseignements qui proposent une façon de travailler comme ça. Et puis dans un deuxième temps, on va apprendre à transformer les émotions. C'est-à-dire, quand une émotion comme l'irritation ou la colère ou la haine naît dans l'esprit, on applique un antidote. Donc dans les enseignements, on va trouver des antidotes pour quand on détecte telle émotion, eh ben on s'en sert comme support pour la transformer en émotion positive. Par exemple, on va nous enseigner que quand il y a beaucoup de haine dans l'esprit, il faut méditer sur l'amour. En méditant sur l'amour, eh bien, on arrive à transformer cette émotion. Et donc, du coup, bah, le fait d'avoir cette émotion devient un prétexte pour pratiquer. Comment méditer sur l'amour? Quand on a de l'orgueil, on va méditer sur l'interdépendance, sur la gratitude. Quand on a de la jalousie, on va méditer sur le fait de se réjouir du bonheur des autres. Voilà, plein d'antidotes comme ça, que je ne vais pas développer ce soir, mais voilà, on avait peut-être déjà parlé avant. Là, l'idée, c'est je transforme. Je pars de quelque chose de négatif et je transforme en quelque chose de positif. Et puis, dans un troisième temps, eh ben, on va apprendre à comprendre les émotions, c'est-à-dire les reconnaître. On ne fait plus rien avec. On comprend qu'il n'y en a pas une qui soit meilleure qu'une autre au fond. Donc, il n'y en a pas une qu'il faille redouter, il n'y en a pas une auquel il faudrait s'agripper. Elles sont là parce qu'il y a des causes et des conditions, et puis on les regarde. On apprend à les observer, à les comprendre, et le fait de les comprendre, eh ben, elles deviennent sagesse. On voit l'émotion pour ce qu'elle est, et non seulement on en est libre de cette émotion, totalement libre parce qu'il y a un renoncement, c'est qu'il n'y a rien à gagner, rien à perdre, on en est totalement libre, et le fait d'être libre de cette émotion, ça fait naître ce qu'on appelle la félicité. La félicité, c'est le fait d'être... c'est une joie, une très grande joie, mais ce n'est pas une joie qui naît d'un plaisir, c'est la joie de savoir qu'il n'y a plus rien qui peut nous affecter. Si on est capable de gérer avec n'importe quelle émotion, eh ben on comprend dans le même coup ben, qu'est-ce qui pourrait nous nuire à ce moment-là. Puisqu'au fond, ce n'est pas le monde qui nous pose problème, c'est notre façon de réagir à ça. Tout ce que ça entraîne comme peur, comme angoisse, comme anxiété, comme irritation, la haine, la jalousie, l'avidité, etc. Quand on comprend que ça ne nous pose plus de problème, que ces émotions, on sait comment les regarder, on sait comment les comprendre, et ben du coup, on devient très à l'aise. Et on comprend qu'il n'y a plus rien dans le monde qui puisse nous nuire. Et c'est de ça que naît la félicité. Ce n'est pas une félicité qui est conditionnée à ce moment-là. C'est juste le fait d'être, d'avoir confiance, d'avoir développé, d'avoir compris comment ça marche. Comment on peut manager avec ces émotions-là sans nous laisser perturber. Et donc, du coup, bah, tout se laisse travailler. C'est une voie qui, du coup, est très rapide et très directe. Et c'est, bah, voilà, c'est la, si on arrive à pratiquer comme ça, c'est la plus puissante. Et donc, Rinpoche Rinpoche enseignait ça. Et puis, il nous disait, bah, voilà, le dharma, c'est ça. Le dharma... Alors, évidemment, dans une journée, on ne pratique pas seulement une façon de pratiquer sur les émotions. Quand on est à l'aise, quand on comprend plus ou moins comment on travaille là-dessus, quand on a reçu plusieurs enseignements, eh bien, parfois, le matin, on va être plus enclin à travailler de la première manière, parce que voilà, on a un peu la tête dans le gaz, on n'est pas trop sûr de nous, on est peut-être enclin à réagir trop fort aux émotions. Ok, on apprend à lâcher prise, chiner, abandonner, renoncer, etc. Et puis peut-être dans l'après-midi, on se sent plus inspiré, on va pouvoir transformer les émotions. Et puis peut-être dans la soirée, on sera beaucoup plus, il y aura une compréhension qui naîtra, et puis on sera voilà, une espèce de stabilité, une sorte de compréhension des choses qui fait qu'on va travailler de la troisième façon. Vous voyez, c'est pas seulement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est on travaille avec les trois. Et tout le dharma, c'est ça. Et beaucoup de gens voilà, demandent c'est quoi le dharma, c'est quoi le bouddhisme, est-ce que c'est une religion, est-ce que c'est pas une religion. Et moi, je l'ai toujours dit, et je continue à, voilà, je continue à le dire. S'il y a quelqu'un qui me dit le bouddhisme c'est une religion, eh ben, je vais lui dire ok. Et puis si quelqu'un me dit le bouddhisme c'est pas une religion, eh ben, je lui dirai ok. Parce que de mon point de vue, si on en revient à l'historique, voilà, il n'y aura jamais un consensus. Il y a des gens qui vont dire le bouddhisme c'est une religion. La religion c'est pas une religion, mais pour moi je trouve qu'on s'en fout complètement. Le dharma c'est une façon de travailler, c'est des méthodes proposées par quelqu'un qui a une grande sagesse, une grande réalisation, qui propose plein de façons de travailler sur notre esprit, avec des aspects qui peuvent paraître religieux, voilà, avec des rituels, des protocoles. Pour certains, on n'est pas obligé de tout prendre. Et puis d'autres, des pratiques totalement informelles, mais tout ça revient au même. Travailler sur son esprit, travailler sur ses émotions. Alors si après, travailler sur ses émotions, ben, on va mettre ça dans la case religion ou pas religion, ça appartient à chacun, mais moi, je continuerai à dire, c'est comme vous voulez, et je ne souhaite pas enfermer le bouddhisme dans une étiquette, religion par religion. Parce que pour moi, c'est limité, justement. Non seulement ça limite la portée de l'enseignement, mais en plus, quand quelqu'un entend religion, bah, et certains, ça va les bloquer, alors qu'ils pourraient avoir une affinité pour l'enseignement. Et bah, du coup, le mot religion, ça va les bloquer, et donc, du coup, ils ne vont pas chercher plus loin. Donc, j'aime pas. J'aime pas. Bien sûr, on dit le bouddhisme c'est religion d'État. Et ça ne l'a pas toujours été. Ça ne l'a pas toujours été en France, ça ne l'a pas toujours été dans d'autres pays. Et puis au départ, ça n'était pas une religion. Au départ, le Bouddha n'a pas fondé une religion. Il a juste, conformément à son souhait de libérer tous les êtres, proposé des enseignements, des méthodes. Des réflexions à tous ceux qui lui demandaient, et puis en fonction des besoins de chacun. Et c'est pour ça que voilà, je fais toute cette intro, parce que je voudrais aborder le Vajrayana. Et le Vajrayana, donc dans vraiment, qui est une voie propre au bouddhisme tibétain, c'est quelque chose que j'ai envie de partager, parce que c'est ce que je pratique principalement, c'est ce qu'on pratique principalement à Bodhicharya France, c'est ce qu'enseigne principalement Lama Tsultrim, Rinpo Rinpoche. Voilà, on est vraiment dans le bouddhisme tibétain. Et en même temps, bah, c'est clair qu'il y a des aspects, c'est vraiment dans le bouddhisme tibétain qu'on retrouve ces aspects qui peuvent déranger certaines personnes, les aspects, le rituel, la prière, le fait de réciter des souhaits, le fait de réciter des mantras, le fait de s'en remettre à des êtres qui ont une grande réalisation. On va trouver ça dans le Vajrayana. Et il y en a certains, voilà, ça va peut-être les rebuter, mais c'est pas, voilà, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, ça, c'est une pédagogie. Là encore, on est dans une pédagogie, une façon de pratiquer qui, pour certains, va être très puissante parce que ça nous parle. Si ça ne nous parle pas, ben, c'est pas grave. On revient aux enseignements du Mahayana, aux enseignements du Sutrayana, et ça va très bien. Ça fait le job. Mais voilà, pour ceux à qui ça parle, on va parler de ça. Et puis, je vais essayer un peu d'introduire ça à travers donc cette prière qui s'appelle la prière à la lignée de Vajradhara. La prière à la lignée de Vajradhara, c'est un texte qui est très important dans la lignée Karmakagyu, donc auquel se rattache Bodhicharya France. C'est un texte qui est très souvent utilisé, très souvent enseigné, parce qu'il est très court et en même temps il est très profond. Voilà, c'est très 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 court et il y a tout dedans. Alors je vais le lire. Grand Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Seigneur du Dharma Gampopa, connaisseur des trois temps, omniscient Karmapa, détenteur des lignées des quatre anciennes et des huit nouvelles écoles, Dri, Tak, Tsel, ces trois lignées, la glorieuse Drukpa, etc. Les maîtres de la profonde voie du Mahamudra, les incomparables protecteurs des êtres, les Dakpokagyu, je vous adresse ma prière, Lama Kagyu, je me rattache à votre tradition. Accordez-moi votre grâce que je suive votre exemple. Le détachement constitue les jambes de la méditation, ainsi enseigne-t-on. Sans être possédé par les nourritures et les biens, le méditant coupe les liens de cette vie. Accordez-moi votre grâce que je sois détaché des honneurs et des possessions. La dévotion est la tête de la méditation, ainsi enseigne-t-on. Au lama qui lui ouvre la porte du trésor d'instruction orale, le méditant adresse continuellement sa prière. Accordez-moi votre grâce qu'une dévotion sincère naisse en moi. L'attention sans distraction est le corps de la méditation, ainsi enseigne-t-on. Quelques pensées qu'il apparaissent, son essence est sa nouveauté immédiate. Le méditant y reste simplement, sans artifice. Accordez-moi votre grâce que la méditation soit libre d'intellection. La nature des pensées est le dharmakaya, ainsi enseigne-t-on. Elle ne sent rien et pourtant toutes apparaissent aux méditants qui les fait s'élever en un jeu d'expériences ininterrompues. Accordez-moi votre grâce que je réalise l'inséparabilité du samsara et du nirvana. En toute mes naissances, puissais-je ne pas être séparé du parfait lama et jouir ainsi de la splendeur du dharma. En accomplissant les vertus des chemins et des terres, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Alors donc c'est un texte qui commence par le premier paragraphe, ça commence par une prière d'hommage au maître de la lignée, et le reste du texte c'est des instructions de méditation pour réaliser le Mahamudra. Dans la lignée Karmakagyu, quand on parle de l'éveil, on parle du Mahamudra, c'est synonyme. Réaliser l'éveil, c'est réaliser le Mahamudra, c'est-à-dire la nature de toute chose. C'est réaliser les choses telles qu'elles sont. Donc on parle du Mahamudra. Et donc ça commence par un hommage au maître de la lignée. Et dans le bouddhisme, et particulièrement dans le bouddhisme tibétain, la lignée, elle a une importance fondamentale, la lignée de transmission. C'est quoi la lignée de transmission ? C'est on comprend que si l'enseignement du Bouddha, il arrive jusqu'à nous, et en fait, on le doit aussi à tous les maillons de la chaîne de transmission. C'est-à-dire que pour que l'enseignement soit vivant, pour qu'il soit encore efficace, c'est parce que de génération en génération, il y a eu des disciples qui ont réalisé l'essence de l'enseignement, qui ont réalisé ce que le Bouddha a réalisé. Donc le Bouddha a eu des disciples qui ont réalisé ce qu'il a réalisé, qui l'ont transmis à leurs disciples, etc. Et donc du coup, les instructions sont restées puissantes, parce que les maîtres qui l'ont transmis, c'est pas seulement les instructions qu'ils transmettent, c'est une expérience. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans le dharma. On ne peut pas avoir vraiment la transmission de l'enseignement par les bouquins. On peut s'approcher, voilà, on peut lire des bouquins, mais il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la transmission orale. C'est pour ça que la lignée Karmakagyu, on l'appelle la lignée de transmission orale, parce que qu'est-ce que la pratique, en fait ? La pratique, c'est avant tout de faire une expérience. C'est d'avoir des expériences. Et cette expérience, on la reçoit de quelqu'un qui a une expérience. Et son but, c'est de nous transmettre cette expérience-là. Quand on écrit des bouquins, on n'a pas vraiment l'expérience de la personne. On lit, et puis s'il y a 10 personnes qui lisent le texte, il peut y avoir 10 interprétations différentes. Alors que dans le dharma, non seulement on est amené à recevoir l'expérience de quelqu'un, mais en plus, on est amené à le solliciter, c'est-à-dire à le questionner. Ok, vous avez dit ça, ok, vous avez enseigné ça, on va le pratiquer, on va y réfléchir, on va le mettre en pratique, et puis ensuite, en fonction des expériences qu'on fait, nous, en tant que pratiquants, on doit aller interpeller l'instructeur, interpeller le maître pour lui dire « est-ce que c'est ça ? Est-ce que je fais fausse route ? Est-ce que je fais bonne route ? Est-ce que je continue comme ça ?» de façon à ce que le maître ajuste. Et en plus, ça va être très important parce que dans une relation comme ça, on va commencer à se connaître un peu mieux. Le maître et le disciple, ou l'instructeur et l'étudiant, ils vont se connaître. Et donc, du coup, l'instructeur va pouvoir donner un enseignement qui est approprié, qui est approprié à la personne qui la demande, en fonction de son contexte, en fonction de son profil, de sa pratique, etc. Et c'est quelque chose qui va être très important. Donc, dans la lignée Karma Kagyu, on va voir cette relation. On va parler de la relation de maître à disciple. Et là, je fais gaffe quand je parle de ça, parce que quand on dit un maître et un disciple, il y a des gens qui vont penser un maître, c'est quelqu'un qui a un ascendant sur la personne, et en gros, elle lui dit des trucs, et la personne doit obéir, etc. C'est pas du tout ça. Déjà, quand on parle d'un maître, on parle de quelqu'un qui a la maîtrise de son esprit. Mais en fait, même dans ce contexte, le terme de maître, il n'est pas juste. Parce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui soit un maître en soi. Un maître, il est un maître parce qu'il a un disciple. C'est parce qu'il y a un disciple qu'il y a un maître. Il ne peut pas y avoir un maître qui serait maître par lui-même. C'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a fait la demande à une autre personne, voilà, je vous suis depuis longtemps, je considère que vous avez une certaine réalisation, que ce que vous enseignez, vous l'appliquez, etc. Et donc, j'aimerais être votre disciple. Ça se passe comme ça. Et si ça se passe comme ça, ensuite, la personne à qui ça a été demandé, eh bien, elle a le choix d'accepter ou de refuser. En fonction, ben voilà, est-ce qu'elle est compétente pour ça, est-ce qu'elle est qualifiée. Et puis, il s'agit d'un contrat de confiance. Si la personne accepte, alors à ce moment-là, il y a une relation de maître à disciple qui s'installe. Et dans cette relation de maître à disciple, c'est un contrat. Un contrat de confiance où les deux, de part et d'autre, il y a des engagements à tenir. L'engagement du maître, c'est le fait d'avoir une compassion absolue vis-à-vis de son disciple. Une compassion sans faille. L'objectif, c'est de faire en sorte que le disciple découvre qu'il est son propre maître. C'est ça, le job. C'est découvrir, c'est ça la réalisation. La réalisation, c'est de découvrir que je suis Bouddha. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre dans le Vajrayana, parce qu'on part d'emblée de ça. Dans le Vajrayana, il n'est pas question de faire un chemin. Voilà, je suis impur, et puis je vais faire un chemin, je vais faire des pratiques, je vais méditer, et puis je vais devenir pur. Non, dans le Vajrayana, on comprend d'emblée qu'on est déjà Bouddha, par nature, et que le chemin, ça consiste à le savoir, à le réaliser. On ne dit plus atteindre l'éveil, on dit réaliser l'éveil. Sous-entendu, c'est tout le temps là. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, la pratique consiste à révéler ça. Mais il faut comprendre que, même intellectuellement, il n'y a rien à réparer dans ce qu'on est. Il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à corriger par rapport à l'esprit. Il est pur par nature. Il est Bouddha par nature. Il n'a jamais été souillé. Il ne sera jamais souillé parce qu'il n'est pas de cette nature-là. Nous sommes Bouddha par nature. Il faut le comprendre quand on pratique le Vajrayana. Il faut déjà déjà en avoir une idée de c'est quoi le job, qu'est-ce qu'on nous demande de faire. On ne nous demande pas de nous améliorer, nous corriger, on nous demande de reconnaître la nature de notre esprit pour comprendre qu'on est Bouddha, pour réaliser qu'on est Bouddha. Et le rôle du maître, ça va être ça. Le maître, c'est sous-entendu, il est maître parce qu'il a réalisé qu'il est Bouddha. Et donc, son souhait, c'est que tout le monde réalise ça. Parce que c'est trop bête, c'est sous notre nez, c'est sous notre nez, mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Et donc, ça va être son job, et puis le job du disciple, bah, à partir du moment où il a confié qu'il souhaitait être guidé, bah, c'est de se laisser guider. Même si, parfois, ça ne va pas être toujours facile de se laisser guider. Parce que le rôle du maître, ce n'est pas forcément de brosser le disciple dans le sens du poil. Le rôle du maître, ça peut être aussi de montrer au disciple que dans son fonctionnement, dans son mode de fonctionnement, il y a des choses qui clochent. Et on n'aime pas entendre ça. Mais donc, ça va être accepté d'être mis en question. Et ce n'est pas forcément agréable. Et on va le voir, en fait, dans l'histoire des maîtres de la lignée, bah, qu'il y a eu des relations très fortes de maître à disciple, où bah, parfois, c'était pas facile. C'était pas facile. Alors, je nuance aussi. Quand on parle de relations de maître à disciple, il y a des gens qui se mettent à dire « Je ne peux pas pratiquer le Vajrayana si je n'ai pas de maître. » Et donc, du coup, comment est-ce que je fais pour trouver un maître ? Comme s'il fallait voilà, poster une annonce et puis, ou alors éplucher une sorte de catalogue de maîtres avec des candidats. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui peut se dessiner. C'est que si ça doit arriver, bah, ça se dessine sur notre chemin. On rencontre des instructeurs, on rencontre des gens, et puis leur façon d'enseigner, ça nous plaît. Et puis du coup, bah, y a une relation qui s'établit. Et puis à force de les observer, à force de les fréquenter, eh ben, on commence à voir que finalement, ces personnes-là ne sont pas si ordinaires que ça. Même si peut-être d'emblée, elles nous paraissaient ordinaires. Mais on va voir que on peut avoir la chance de rencontrer des gens exceptionnels sur notre route, qui, même s'ils ne payent pas de mine, à un moment donné, notre confiance en eux va grandir parce que les instructions qu'ils vont nous donner. Alors déjà, on va se sentir très enclin à leur parler de tout. On sent qu'on peut leur faire confiance et puis que leurs instructions qu'ils nous donnent, ça nous parle, ça marche, etc. Et puis, de fil en aiguille, au fil des mois, au fil des années, il y a une confiance qui va grandir et donc du coup, ça va devenir puissant. Cette relation va devenir très puissante sur notre chemin. Et éventuellement, il peut y avoir des gens qui vont demander à la personne d'être leur disciple. Et à ce moment-là, la personne, peut-être, si elle se sent qualifiée, elle peut dire oui. Et donc, du coup, ça va encore renforcer la relation. Ce qui est très important à comprendre, c'est que dans le Vajrayana, si ce genre de relation s'établit, il y a quelque chose donc, qui est caractéristique de cette voie-là, c'est que les instructions qu'on reçoit de notre maître, elle prime sur tout. C'est-à-dire, même ce qu'on a lu dans les sutras, ça passe après. Même s'il y a des règles dans la tradition du dharma, ça passe après. Si on considère que, on s'en remet à un maître et que le maître a accepté, et si lui juge que, maintenant il faut appliquer telle instruction, et que, parce qu'il juge que c'est habile et que ça va nous être plus puissant sur notre chemin, cette instruction va passer avant même les enseignements qu'on lit dans les textes. Donc évidemment, ça va sans dire qu'il faut être hyper vigilant avant de s'engager dans ce type de relation. Et si un jour on se sent des affinités avec une personne, une grande confiance qui naît, ça ne suffit pas. D'ailleurs, cette confiance, elle doit vraiment se construire avec le temps. Il y a même des critères dans les textes très très précis qui nous aident à évaluer si un maître, quelqu'un qu'on envisage comme un maître, il est valable. Est-ce qu'il est fiable dans le temps? Est-ce qu'il est fiable tout le temps? Est-ce qu'il est fiable avec tout le monde? Est-ce qu'on peut voir que les qualités qui nous témoignent, l'amour, la compassion, la joie, il ne la témoigne pas seulement à nous, il ne la témoigne pas seulement à ses proches, il la témoigne avec tout le monde sans exception et quelles que soient les circonstances? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît bien les enseignements? Est-ce que c'est quelqu'un qui applique les enseignements? C'est-à-dire qui applique ce qu'il enseigne? En fait, il faut le voir comme parfait. Donc, si une telle relation elle doit se mettre en place, il faut que on doit juger avec le temps que cette personne, elle est qualifiée. Si elle n'est pas qualifiée, il n'y a pas besoin. Enfin, il ne faut surtout pas s'imposer ce type de relation-là. Parce que, on a vu ça dans les textes, parce qu'il faut, etc. Non, non. Ça se dessine ou ça ne se dessine pas. Mais si ça se dessine, ça va se faire naturellement. C'est-à-dire qu'on aura une confiance absolue. Et à partir de là, éventuellement. C'est encore.
Quand vous parlez de maître, On peut entendre lama racine. Hein.
Lama racine.
On est bien d'accord. Lama racine. Et pour faire un peu la différence avec l'ami spirituel, qui peut être un lama ou pas.
Ouais.
C'est ça. Hein.
Ouais.
Donc, chaque fois que vous avez parlé de maître, il faut qu'on entende lama racine.
Lama racine, oui.
D'accord. Merci.
L'ami spirituel, ça peut être. Ça peut être quelqu'un de la sangha, ça peut être un moine, ça peut être un lama avec qui, ben voilà, il y a une relative confiance, quoi. Même si, voilà, on voit que la personne, ben, elle a ses défauts, elle est en chemin, etc. Mais on lui fait confiance pour au moins nous transmettre le dharma tel qu'elle nous l'a enseigné, etc. Ça, c'est l'ami spirituel. Ça peut être un pratiquant plus avancé, etc. Le lama racine, donc le maître. On l'appelle le lama racine. Pourquoi on parle lama racine? Racine, c'est en fait, c'est au sens le lien avec la nature de notre esprit. C'est lui qui va nous faire reconnaître ce que nous sommes, c'est-à-dire notre nature de Bouddha, parce que quand on le voit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, toutes les manifestations de ce truc, on a l'impression d'être devant le Bouddha. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui a réalisé toutes les qualités de l'éveil et on n'a qu'une envie, c'est de devenir comme lui. On n'a qu'une envie, c'est de se dire, si l'éveil c'est ça, moi je signe. Et donc du coup, ça nous met en rapport avec notre nature de Bouddha. Pourquoi on a envie de ça? Parce que c'est nous. Bon, ça fait écho avec notre propre nature. On a envie de pouvoir déployer, d'être tout le temps serein, d'être dans cette non-peur, d'être totalement bienveillance, amour, compassion, des choses qu'on voit à travers l'autre et qu'on a envie de révéler chez nous. Et c'est pour ça qu'on va parler de lama racine. Alors, ça commence par Grand Vajradhara, Tilopa. Je vais faire juste un petit aperçu des premiers maîtres de la lignée, puis on s'arrêtera là. Pour vous montrer que les éveillés de cette lignée, de la lignée Karmakagyu, c'est tous des personnages hauts en couleur. Et puis moi, ça m'a beaucoup plu en fait d'étudier la vie des maîtres. D'ailleurs, je vous encourage, si vous avez l'occasion, à lire les biographies de ces maîtres-là, si vous sentez une connexion avec l'un d'entre eux. Il y a des biographies de ces maîtres. En plus, ça se lit comme des romans. Il y a un côté agréable, c'est qu'on lit des... Leur vie est un enseignement, donc ça nous connecte au dharma, à un dharma très puissant, très profond. Puis en même temps, c'est l'histoire de leur vie. Et il y a un côté très ludique aussi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que ça permet de voir que, en fait, l'éveil, on ne peut pas l'enfermer dans une forme. On ne peut pas enfermer l'éveil dans une attitude... On ne peut pas se dire, par exemple, un éveillé, c'est quelqu'un qui doit se comporter comme ça, qui doit avoir telle attitude. Un éveillé, c'est sans doute un yogi dans une grotte. Ou alors un éveillé, c'est quelqu'un, c'est un grand érudit, un moine dans un monastère. En fait, quand on voit la vie des maîtres, on voit que l'éveil, ça échappe à tous nos concepts de qu'est-ce que ça pourrait être l'éveil. On ne peut absolument pas l'enfermer dans quelque chose. Et en même temps, du coup, ça rassure aussi. Parce qu'on va voir que le chemin des maîtres, eux aussi, ils ont eu leurs difficultés, eux aussi, ils ont eu leurs traits de caractère, leurs tendances négatives, etc. Et on peut se retrouver aussi là-dedans. Et puis on peut voir aussi que dans notre mode de vie, quel qu'il soit, il n'est absolument pas incompatible avec l'éveil. Même si on voit qu'il y en a certains, ils vont avoir un mode de vie plutôt monastique, d'autres un mode de vie ermite, on va voir aussi que dans les maîtres de la lignée, il y a une foule de personnes qui avaient un mode de vie totalement ordinaire. Les premiers pères de la lignée, c'était des yogis. La voie monastique, elle arrivait très tard, en fait, dans la lignée Kagyu. Les pères de la lignée, c'était des yogis. Un yogi, c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas des conventions, qui ne s'embarrasse pas, justement, d'un mode de vie particulier pour réaliser l'éveil. Tout est bon pour l'éveil. Donc un yogi, c'est quelqu'un qui est capable de voir l'éveil en toute chose. Qu'on peut réaliser l'éveil dans un mode de vie ordinaire, comme dans un mode de vie extraordinaire, dans un mode de vie conventionnel, dans un mode de vie non conventionnel, à travers des métiers ordinaires, à travers des métiers pas ordinaires, etc. Un yogi, il unit tout sur la voie de l'éveil. C'est pour ça qu'on parle de yoga. yoga au sens union, là, dans ce contexte-là, on unit le profane et le sacré, dans le sens où il n'y a plus cette discrimination entre ça c'est profane, c'est pas bon, ça c'est sacré, c'est bon. Non, profane, sacré, tout ça c'est du point de vue du yogi, tout est bon pour l'éveil, donc tout est unification sur la voie, sur le chemin de l'éveil. Et le premier s'appelle donc Tilopa. On dit grand Vajradhara, Tilopa. Et Tilopa, effectivement, c'était un yogi. Un yogi pas forcément fréquentable. Quelqu'un vraiment qui avait une attitude très, qu'on pourrait de l'extérieur dire très discutable, quoi. Et Tilopa, il avait 4 maîtres principaux. Voilà, peut-être parmi eux, vous connaissez Nagarjuna. Vous connaissez aussi une femme qui avait une très grande réalisation qui s'appelle Sukhasili, parce que c'est des personnages qui sont connus. Mais en tout cas, Tilopa, il disait, moi, j'ai pas eu de maître humain.
De
maître humain. J'ai jamais eu de maître humain. Mon maître, c'est Vajradhara. Et qu'est-ce qu'il affirme quand il dit, mon maître, c'est Vajradhara? Vajradhara, c'est notre nature de Bouddha. C'est notre Bouddha, c'est le Bouddha primordial. C'est le Bouddha qui est présent en chaque être. Donc quand il dit « Moi, je n'ai eu qu'un seul maître, c'est Vajradhara », en fait, il affirme qu'il a réalisé la nature de Bouddha et que c'est ça, son propre maître, le véritable maître. Bien sûr, les maîtres lui ont donné les instructions pour réaliser ça, donc ça n'enlève rien, bien sûr, au rôle de la transmission. Mais c'est une façon de dire que c'est ça qu'il nous faut réaliser. Si on réalise Vajradhara, eh bien, on réalise qu'on est notre propre maître. On réalise notre propre maître. Ensuite, Tilopa, il a eu un disciple qui s'appelle Naropa. Alors, Naropa, rien à voir. Naropa, c'est un grand érudit. C'est quelqu'un qui est brillant. C'est quelqu'un qui, donc, était un érudit à la tête du monastère de Nalanda, une université bouddhiste très célèbre, qui a vu passer des milliers de maîtres. Et Naropa, voilà, c'est vraiment le profil du pratiquant érudit qui sait tout, qui connaît tout le dharma sur le bout des doigts. C'est quelqu'un très intelligent, très brillant. Et un jour, Naropa, il est assis en train de lire un livre, en train de lire un texte du dharma. Et il voit une ombre se poser sur son texte. Il lève la tête et devant lui, il voit une femme d'une laideur absolue. Elle est décrite comme laide, vieille, édentée, hirsute, sentant mauvais, etc. Et elle lui dit « Tu comprends ce que tu dis ?» Et puis Naropa lui dit « Évidemment. » Et puis elle lui dit « Tu comprends les mots et le sens de ce que tu lis ?» Naropa lui dit, évidemment, je comprends les mots de ce que je lis. Et puis, évidemment, je comprends le sens de ce que je lis. Et là, elle explose de rire. Et dans cette... Et à ce moment-là, Naropa est ébranlé au plus profond de lui. Quand il entend ce rire, il vient de comprendre qu'il n'a rien compris au dharma. Il sait tout, et en même temps, il comprend qu'il n'a rien compris. Qu'il y a quelque chose qui lui échappe profondément, c'est ce truc qui a déclenché. C'est le fait qu'elle explose de rire qui déclenche ça. Donc il est bouleversé, et puis il demande à cette femme, bah non, en fait, effectivement, je ne comprends pas le sens de ce que je lis. Et est-ce que vous sauriez me l'enseigner ? Elle lui dit, bah non, moi je peux pas, mais par contre, je connais quelqu'un qui peut le faire, c'est Tilopa. Et quand il entend le nom de Tilopa, on dit qu'il a les poils qui se hérissent, il se met à suer, à avoir les larmes qui coulent, ça lui provoque chez lui une grande dévotion et il se met en quête de chercher Tilopa. Il va rencontrer la première fois Tilopa au bord d'une rivière, un gars accroupi dans la rivière en train de dévorer des poissons crus, vivants. Donc violent quoi, violent. Et en même temps, il va avoir aucun doute. Même si du point de vue de voilà, en tant que pratiquant bouddhiste, ce qu'il est en train de faire, c'est complètement inimaginable, quoi. C'est contraire à tout ce qu'il envisage comme étant la compassion, comme étant voilà, l'éthique, etc. Et pourtant, il va avoir une confiance inébranlable dans cet homme. Et Tilopa, vraiment, il va, dans l'histoire des maîtres, Naropa, c'est vraiment celui qu'on a le plus bavé. Tilopa, il ne va pas lui donner une parole d'enseignement, pas un mot. C'est très intéressant. Naropa, c'est tout sur le dharma, et son maître ne va pas lui donner un mot d'enseignement. Tout l'enseignement de Tilopa, ça va être de le mettre dans des situations qui vont le déstabiliser et faire en sorte que chaque concept qu'il a construit soit détruit. Il a conceptualisé le dharma. Il sait tout, mais il le connaît de manière intellectuelle, le dharma. Et ça le bloque à un moment donné. Ça l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Il fabrique. Il est tout le temps soumis à fabrication. Donc, Tilopa, au fur et à mesure des rencontres, à chaque fois, dans chaque épisode de sa vie, vous allez voir, si vous le lisez, en fait, chaque enseignement va être une sorte de leçon où il peut s'appuyer sur rien. Tout s'écroule. Toutes ses croyances, tous ses concepts s'écroulent. Ça tient plus la route. Et on va voir que Tilopa va l'emmener dans des choses. Quand je vous disais, les instructions du maître, elles priment sur tout. Naropa, c'était un moine. Donc, vœu de célibat. Et puis le vœu de célibat, quelque part, c'était sacré, quoi. En tant que moine, il y tenait et puis il en était fier de ses vœux. Et puis un jour, on va voir que Tilopa va lui dire, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller séduire cette femme là-bas. Tu vas te marier avec elle. Et puis, alors non seulement il lui demande de briser ses vœux de célibat, mais en plus il se trouve que la femme, elle est mariée à quelqu'un d'autre. Donc en plus, adultère, quoi. Ça fait... Donc ça fait beaucoup. Puis en plus, je crois que dans la suite de l'histoire, Tilopa, lui pique sa femme. Et c'est bien. Jusqu'au jour où... il y a une scène très célèbre où Tilopa va lui balancer sa sandale. Et Naropa va s'approcher de lui demander des instructions, et puis dans un accès, Tilopa, apparemment furieux, lui balance sa sandale sur la tête. Naropa tombe dans les pommes sous le cou, et puis quand il se réveille, il a réalisé tous les enseignements du Mahamudra, les yogas, le Mahamudra, etc. Voilà. sans un mot d'enseignement. Il en avait, et lui, il en connaissait suffisamment, il fallait justement déconstruire, quoi.
Mais il est plus éveillé que Tilopa ?
Non, il a la réalisation de Tilopa. La réalisation, elle est ultime. Il n'y a pas de... Voilà. Quand la réalisation est ultime, quand c'est le plus haut niveau de réalisation, c'est l'état de Bouddha. Donc, après, il va se manifester peut-être différemment avec Naropa que Tilopa. Tilopa a une certaine activité, l'activité de quelqu'un qui n'est pas conventionnel. Naropa, peut-être, ça va se manifester d'une autre manière. Mais la réalisation, c'est-à-dire la compréhension des choses telles qu'elles sont, elle est pareille. Pour les deux, ils voient les choses telles qu'elles sont. Donc, on va parler aussi de la voie des moyens habiles. Je vous dis ça parce que parfois, quand on parle du Vajrayana, on dit moyen habile, mais la seule façon de savoir si c'est habile, c'est est-ce que ça marche ? Parce que c'est quelque chose qui est important à savoir. Naropa, il en a bavé, mais le résultat, c'est qu'il a réalisé l'éveil. Donc on peut considérer que Tilopa était qualifié. Tilopa a utilisé des moyens habiles. Si ça avait détruit son disciple, si Naropa était malheureux, détruit, etc., on ne peut pas considérer que c'est des moyens habiles. C'est aux effets qu'on peut décréter que les moyens sont habiles. Parce qu'après, on va voir que dans le dharma, il y a eu beaucoup d'abus par rapport à ça. Dans le bouddhisme, on n'a pas échappé aux abus de gens qui se la jouaient yogi ou qui se la jouaient maître qualifié. Et puis, en fait, n'étant pas qualifiés, ils sont tombés sur des gens qui se sont laissés embarquer ou qui ont été naïfs ou qui avaient une foi aveugle. Et en fait, cette relation a été non seulement préjudiciale pour le disciple, mais pour le maître aussi, parce qu'il a accumulé énormément de karma négatif. Voilà, quand on parle de moyen habile, c'est parce que la personne, ça marche. Ensuite, Naropa a eu... Je peux continuer encore, ouais. Donc, Naropa a eu comme disciple Marpa. Marpa, je l'aime bien parce que c'est vraiment la figure du bon propriétaire terrien, quelqu'un qui avait une femme, des enfants, qui gérait bien sa vie de famille, qui gérait bien son business, et en même temps qui avait la réalisation ultime. Et puis Marpa, je l'aime bien aussi parce que c'était quelqu'un de très très colérique. Donc ça permet aussi de se décomplexer par rapport à ça. Voilà, Marpa, c'était vraiment le caractériel. Mais quand je dis caractériel, le cas social, quoi. Aujourd'hui, voilà, on le mettrait dans un institut spécialisé. D'ailleurs, les gens de ses proches, ils se disaient, ben voilà, Marpa, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'il va devenir si on fait rien? Soit il va tuer quelqu'un, soit ça va mal se passer. Et donc certains se sont dit, on va peut-être l'introduire au Dharma, ça pourrait peut-être marcher. Et il se trouve que ça marchait, et Marpa a tout de suite manifesté beaucoup d'intérêt pour le Dharma, au point qu'à un moment donné, il s'est dit, voilà, moi, je ne me contente pas de ça, et je voudrais aller chercher le Dharma à la source, en Inde. Marpa, c'est le premier maître de cette lignée tibétain. C'était un Tibétain, Marpa. Et il va aller chercher les enseignements en Inde. Et à l'époque, aller chercher les enseignements en Inde du Tibet, c'était pas rien, quoi. D'abord, la tradition, c'était de ramener de l'or. Alors, il allait à l'ouest du Tibet, dans les mines d'or. Et puis, une fois qu'il avait récolté assez de minerais, eh ben, il faisait le voyage en Inde. Il l'offrait à ses maîtres pour recevoir des instructions. Il donnait tout. C'était comme ça qu'on recevait les instructions. Et d'ailleurs, on a gardé cette tradition. C'est-à-dire, on ne tarife pas les enseignements. On dit aux gens, à vous de faire une offrande. L'enseignant, il donne le dharma, mais chaque pratiquant, ben, en fait, pour donner de l'importance à ce qu'il va recevoir, eh ben, ça passe par l'offrande. Ça vient de là, en fait. On manifeste le fait que c'est important pour nous en faisant une offrande. Et l'offrande, c'est pas tant pour l'enseignant qu'on le fait. L'enseignant, a priori, il s'en fiche. D'ailleurs, il se doit de ne pas avoir de regard là-dessus, puisqu'il donne l'enseignement, il fait le don du dharma. Donc il n'attend pas de retour, il n'attend pas une rémunération, il n'attend pas un pourboire. Voilà, on essaye de garder cette tradition, de ne pas tarifier l'enseignement, en considérant que l'offrande, ça regarde le pratiquant, c'est son rapport avec le dharma. C'est comme ça qu'on établit une bonne connexion avec le dharma. Et donc, Marpa, il est resté 16 ans auprès de Maropa, et il a fait 3 fois l'aller-retour. Il a fait 3 voyages en Inde. Et à chaque fois, donc, il arrivait avec son or, avec tous les périples que ça induisait à l'époque, c'est-à-dire les dangers de la route, les conditions extrêmes, les maladies, enfin voilà, terre inconnue. Et ensuite, auprès de Naropa, donc, il a reçu les instructions du Mahamudra, les 6 yogas, qu'il a ramenés au Tibet, et il a tout traduit. Et on l'appelait Marpa le traducteur. Et puis Marpa, il est célèbre aussi pour son disciple Milarepa. Milarepa, il est très célèbre parce que c'est vraiment l'exemple du yogi spectaculaire. La vie de Milarepa, elle est spectaculaire de A à Z, et son éveil, il est spectaculaire, la manifestation de son éveil, elle est spectaculaire. C'était quelqu'un qui s'était affranchi de toutes les nécessités d'un homme ordinaire. Il n'avait plus besoin. Il pouvait rester sur des plateaux tibétains, dans des conditions extrêmes, juste vêtu d'un drap de coton. Il n'avait pas besoin de se nourrir, pas besoin de dormir, pas besoin de chaleur, pas besoin de chauffage. Il se retirait dans des grottes, mais même les animaux sauvages n'y allaient pas, tellement c'était austère, tellement c'était hostile. Lui, s'y plaisait. Il maîtrisait la chaleur intérieure. Donc quand on lit sa vie, on se dit, mais est-ce qu'un gars comme ça, il a vraiment existé, quoi. Et quand les gens allaient le rencontrer, parce que faut imaginer, quoi, croiser quelqu'un comme ça, c'était complètement, c'était un extraterrestre, de voir un gars débarquer dans la neige, tout frais, tout dispo. Les gens lui demandaient des instructions et il répondait par chants spontanés. Des très beaux chants poétiques, comme ça, qui lui venaient spontanément, et qui sont consignés dans un ouvrage qui s'appelle « Les 100 000 chants » de Milarepa, et que je vous invite aussi à lire, qui sont très très beaux, très très simples en plus, très imagés. Et voilà. Milarepa, il est aussi connu pour avoir réalisé l'éveil en une seule vie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en fait, Milarepa, c'est quelqu'un au début de sa vie qui était un criminel. Il a tué des gens. Et donc, du coup, bah, il est parti de ça, d'un karma extrêmement négatif, d'avoir tué beaucoup de gens. Et en une seule vie, il a pu, non seulement il a purifié tout ça, mais en plus, il a réalisé le parfait éveil, l'accomplissement le plus complet. Donc, ça nous montre aussi la puissance de ce véhicule. C'est vraiment dans le Vajrayana qu'on a des méthodes aussi puissantes pour réaliser l'éveil. Bon, je finis par Gampopa, puis après j'arrête. Enfin, Gampopa, le disciple de Milarepa. Gampopa, c'est encore un autre personnage, c'est un médecin. Très respecté. Voilà, très noble, très respecté, très talentueux. Il a déjà une bonne réalisation, Gampopa, parce qu'il a étudié auprès d'une autre tradition, une autre lignée de transmission. Et Gampopa, il va être dégoûté du samsara le jour où il va perdre sa femme et ses enfants qui sont décimés par la maladie. Et là, du coup, il va promettre à sa femme, sur son lit de mort, de prendre les vœux de moine et puis de s'adonner à la pratique spirituelle. Et... donc il va... Je la fais courte. Je la fais courte. Il va entendre le nom de Milarepa. Et pareil, il va avoir une grande dévotion en Milarepa. Il va le suivre, ça va aller très vite. Il ne va pas rester très très longtemps auprès de Milarepa. Il a déjà une grande réalisation, donc il va recevoir les instructions de Milarepa. Et puis Milarepa va lui dire, bon, ben maintenant c'est la dernière fois qu'on se voit. Tu as reçu tout ce que je t'ai... toutes les instructions. T'as plus qu'à mettre en pratique, t'as plus qu'à méditer. Et puis le jour où tu me verras en tant que Bouddha, ben, ce sera pour toi le temps d'enseigner. Et Gampopa va pratiquer. Et à un moment donné, il va avoir la totale réalisation. Il va réaliser qu'il est Bouddha. Et du même coup, il va réaliser que Milarepa est Bouddha. Et c'est là qu'il va se mettre à enseigner et avoir des milliers de disciples. Vraiment, à partir de Gampopa, la lignée Karmakagyu va avoir une extension énorme. Il va avoir plein de disciples. Il va introduire la tradition monastique, qui jusqu'à présent était absente dans la lignée Kagyu. Et voilà, c'est intéressant cette instruction, parce que Milarepa lui dit, le jour où tu me verras comme Bouddha, ce sera le moment d'enseigner. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est le jour où il réalise qu'il est Bouddha. Et bah, du même coup, il réalise que tous les êtres ont la nature de Bouddha. Et puis il réalise ceux qui ont réalisé leur nature de Bouddha, c'est-à-dire les éveillés. Donc quand on parle de nature de Bouddha, dans le contexte des enseignements, ça veut dire que c'est un potentiel. On ne l'a pas encore réalisé. C'est là, mais on ne le sait pas. Quand on parle d'un éveillé, bah, on parle de quelqu'un qui a réalisé sa nature de Bouddha. Mais ce que comprend Gampopa, quand on réalise l'éveil, bah, on réalise bah, tout ça. Quand on réalise quand on fait une expérience de notre nature de Bouddha, même si on fait cette expérience une fraction de seconde, même si on fait cette expérience une minute, on comprend que tous les êtres ont cette nature. Ils sont Bouddha par nature, ils sont Bouddha, mais ils ne le savent pas. Ça, c'est quelque chose qui est important sur notre chemin, parce que bien sûr, on aura beau nous dire, ben voilà, on a tous la nature de Bouddha, toi, tu as la nature de Bouddha, donc il n'y a rien à corriger, donc il n'y a rien à améliorer, tu es parfait comme tu es. Si on ne l'a pas goûté, ça ne va pas changer le chemin bhikkhu. Mais heureusement, sur le chemin, on va avoir des expériences. Quand on va pratiquer Shin et Laktong, le but, c'est de faire naître cette expérience. Et si on l'a fait une fraction de seconde, ça suffit, en fait, pour voir ça. Non seulement on voit qu'il n'y a aucun problème avec ce qu'on est, et donc, du coup, ça va nous offrir une compréhension plus profonde des enseignements, même si après les voiles reviennent, l'expérience elle va peut-être disparaître, les voiles vont revenir, mais on va mieux comprendre de quoi il s'agit. On ne travaille pas sur ce qu'on est en essence, on travaille sur les voiles qui nous empêchent de reconnaître ce qu'on est. Et non seulement on va le reconnaître pour nous, mais on va le reconnaître chez tout le monde. ça vient automatiquement, c'est simultané. Si on le voit chez nous, une fraction seconde, on le voit chez tout le monde. On sait que les autres sont Bouddha, par nature. Voilà, je vais m'arrêter là. Le texte, vous pouvez le garder. Si vous ne souhaitez pas, vous me le rendez. On travaillera dessus la semaine prochaine.
Le mois prochain,
en janvier. Hein. Oui, c'est ça, janvier. Et puis voilà, si vous avez des questions, éventuellement, ouais.
Dans le texte, là, c'est noté des tenteurs délignés des quatre anciennes et huit nouvelles écoles. Et dans le texte, c'est une anecdote, hein, c'est pas grand-chose, mais des quatre grandes et huit petites écoles. C'est quoi ce truc-là? Non, la quatrième phrase.
Ouais.
Des tenteurs délignés des quatre grandes et des huit petites écoles. Non, vous l'avez jamais vu ce...
Ouais. Ah, c'est... ouais, je l'ai déjà vu. Ouais.
Et
c'est quoi la nouvelle traduction? La nouvelle traduction, c'est nouvelle et ancienne, c'est ça?
Oui.
C'est ça la nouvelle?
C'est ce qui a marqué.
Oui, mais je vois bien que c'est ça. Mais il y a une explication, non? Parce que je ne pense pas que ça soit une question de traduction. Si?
Je sais
voilà,
pas.
C'est une colle.
Elle m'a eu. Non, je sais pas.
Non,
bon,
enfin, c'est du détail. Hein. Merci.
Une autre question piège?
Moi, j'ai une, je ne sais pas si elle est piège, mais comment un être sait qu'il a réalisé l'état de Bouddha? Comment il sait qu'il... Tiens, ça y est, c'est bon.
Alors il y a quelque chose qui, il y a une définition qui met tout le monde d'accord. Voilà, un dénominateur commun, c'est qu'il n'y a plus de dukkha.
Yep.
Il n'y a plus de souffrance, plus de contrariété. Ouais. S'il y a encore un dukkha, c'est qu'il y a encore une illusion.
Donc quel que soit le phénomène qui vient à toi, ça te met plus en souffrance.
Ouais.
On rentre plus dans l'émotionnel.
Alors je sais pas, parce que rentrer dans les messieurs, c'est une grande question en fait. Il y a des gens qui se disent, est-ce que les Bouddhas ressentent encore les émotions, ou est-ce que un Bouddha ne ressent plus les émotions? Ça fait débat. Moi, ce que je comprends, enfin moi, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, je comprends que un éveillé ressent les émotions. Simplement, elle lui pose plus de problème. Parce que, par exemple, on dit, voilà, un jour, quelqu'un avait demandé au Dalai Lama, mais du coup, est-ce que vous ne ressentez plus de tristesse, vous ne ressentez plus de colère? Il disait, mais bien sûr que si, je ressens de l'irritation, je ressens de la tristesse. Mais c'est difficile parce que là, on a un problème de mots. Parce que qu'est-ce que l'irritation quand il n'y a plus quelqu'un qui est... irrité, c'est-à-dire qui est identifié à l'irritation. C'est-à-dire on ressent l'irritation, mais en même temps, ça ne nous pose plus de problème. Alors, est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'irritation? C'est de l'irritation sans irritation. C'est-à-dire, oui, il y a les symptômes de l'irritation. Hein, c'est des symptômes qui sont différents que si on éprouve, par exemple, une grande béatitude ou une grande joie, etc. Mais en même temps, étant donné qu'on est totalement libre, bah, à la fois, on ne peut pas dire c'est de l'irritation parce qu'on n'est plus emporté par l'émotion, donc...
Il va rester stoïque.
Oui, voilà, c'est ça. Il les reconnaît. Non seulement il est stoïque, mais en plus, il est en paix avec ça. Il y a des symptômes, sans doute, peut-être, s'il y a quelque chose qui irrite. Voilà, c'est qu'il y a des causes qui font que bah, voilà, ça peut se traduire par des symptômes corporels. Mais son esprit est totalement en paix avec ça. Pourtant, il se passe bien quelque chose. Ce n'est pas un esprit où il ne se passe rien. Donc voilà, qu'est-ce que l'irritation sans irritation? Qu'est-ce que la tristesse s'il n'y a plus quelqu'un qui est identifié à la tristesse? C'est un mouvement d'esprit. Il reste une dynamique. Et une dynamique avec ses fluctuations, ses différences d'amplitude, ses différences de couleur, de tonalité. Mais on ne peut plus appeler ça de la tristesse. On va parler de tristesse, oui, le Dalai Lama éprouve de la tristesse. Oui, mais il ne le vit pas pareil. Donc c'est plus vraiment... ouais, c'est difficile quoi de parler de ça. Donc du coup, la seule façon qu'on ait de le comprendre, c'est de le vivre. C'est à un moment donné, peut-être qu'on va avoir cette expérience, et d'ailleurs il le faut, hein, dans la pratique, de voir qu'on peut avoir de l'irritation et que ça pose plus de problème. On n'est pas irrité. On a de l'irritation, on n'est pas irrité. Et il y a juste une énergie avec, et on n'a pas, on ressent pas le besoin de changer d'état d'esprit en se disant « ça serait mieux un autre état d'esprit que celui-là ». Non, il ne pose pas de problème. Et puis en plus, il a une, on est à l'aise parce qu'on ne le bloque pas, on n'est pas en train de le refuser, on n'est pas en train de travailler pour changer quelque chose, et en même temps, ça ne pose aucun problème. Et en même temps, on est totalement libre de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. On n'est pas, y a pas un objet d'irritation aussi. Quand on est libre d'irritation, ben en fait, on ne projette pas sur un objet d'irritation. C'est sa faute à lui, c'est sa faute à la situation. C'est juste de l'irritation. C'est juste un phénomène. C'est juste un phénomène. C'est vu comme un phénomène dont on est totalement libre, dont on n'est pas identifié, donc il ne pose aucun problème. Donc, est-ce que c'est encore de l'irritation ? Ben, ouais, on ne sait pas.
C'est la liberté, oui.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en même temps, c'est génial. Parce que du coup, on voit que l'éveil, c'est une plénitude de sentiments. Ce n'est pas une sorte d'état permanent où il n'y a plus de fluctuations, il ne se passe plus rien. Non, on vit tout ça. On vit tout ce qu'un humain peut vivre, mais on le vit différemment.
Mais c'est tout le temps. C'est pas... Parce que moi, ça m'arrive.
Si c'est la réalisation.
Ça m'arrive de ne pas rentrer dans l'émotionnel.
Ah, bah oui, alors ça, c'est des expériences. Si c'est une expérience, eh ben, si vraiment on est totalement libre de l'émotion, si on reconnaît l'émotion telle qu'elle est à ce moment-là, quand on est totalement libre, bah, c'est l'éveil, le temps, voilà, c'est l'éveil une fraction de seconde, c'est l'éveil une minute, etc. Mais ce n'est pas la réalisation, parce que la réalisation, c'est définitif.
C'est définitif,
il n'y a pas de retour possible. Dans les expériences, bah, on retombe, parce qu'il y a encore des illusions par-ci, par-là, des tendances, et donc on retombe dedans. C'est pas acquis, quoi. La réalisation, c'est acquis. On ne peut plus revenir en arrière. C'est bon ? On fait la dédicace ? Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci.
Merci.